soirée. La prochaine a lieu le 5 juin. La seconde a lieu le 19 juin. Là encore, c'est sur inscription auprès de la bibliothèque Fratellini. Cette ludothèque Fratellini aura un événement important à la rentrée puisqu'elle fêtera ses 10 ans. La troisième ludothèque est une bibliothèque ludothèque. Elle se situe sur le quartier de Belle-Beille, au centre Jacques Tati. Donc là, c'est un univers où livres et jeux sont mêlés. Ces trois ludothèques-là vous permettent de jouer sur place lorsque les conditions sanitaires le permettent, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour. Mais en tout cas, voilà, on peut jouer dans les ludothèques, des jeux de société, des jeux de construction, des jeux qui permettent d'imaginer des scénarios, etc. Et puis, on peut aussi et surtout emprunter des jeux. Donc ça permet aussi de renouveler les jeux qu'on a à la maison, d'en tester certains avant de passer à l'achat. Donc voilà. Sur les ludothèques, il y a un projet d'une quatrième ludothèque en 2023 également, qui se situera sur le quartier de Montplaisir, qui alliera elle aussi le jeu. Donc ce sera la deuxième bibliothèque ludothèque du réseau. Un petit clin d'œil à nos collègues des Francas, puisqu'il y a une cinquième ludothèque voilà, sur la ville d'Angers. C'est la ludothèque des Francas qui est positionnée sur le quartier de la Roseraie. Et puis enfin, le dernier équipement dans lequel je travaille, qu'on appelle le PELJ, voilà, c'est son petit nom, mais qui en fait est l'acronyme de Pôle éducatif livre et jeu. C'est une bibliothèque ludothèque qui est réservée aux professionnels qui travaillent sur le territoire d'Angers. Donc ça concerne des professionnels de l'éducation, de l'animation, de la culture, du travail social, qui viennent emprunter des livres et des jeux pour les utiliser auprès de leur public dans leur quotidien professionnel. Voilà, sur cette présentation, ce que l'on peut dire, c'est que pour accéder aux ludothèques, eh bien, c'est avec la carte de bibliothèque. Voilà, donc sur une carte de bibliothèque, on peut emprunter un jeu par carte. L'inscription se fait dans les bibliothèques, puisque toute la charge des inscriptions est portée par les bibliothèques et non pas les ludothèques. Ça, c'est pour éviter les frustrations des gens qui arrivent à la ludothèque et à qui on refuse l'accès parce qu'il faut qu'ils passent par la case bibliothèque auparavant. L'inscription est gratuite pour les moins de 26 ans. Voilà, elle est payante après, mais voilà, vous pouvez emprunter un jeu, quel qu'il soit, jeu de société, jeu de construction, jeu d'assemblage, des puzzles pour les tout petits, pour les plus grands. Il n'y a pas d'âge, voilà, il n'y a pas de tranche d'âge, les ludothèques ne sont pas réservées aux enfants. Et puis, on espère renouer avec une tradition du monde des ludothèques qui sont les soirées-jeux. On attend avec hâte que les conditions sanitaires s'améliorent et on espère pouvoir renouer avec ces rendez-vous avec nos usagers à partir de la rentrée prochaine. Et puis enfin, peut-être un clin d'œil à notre grand rendez-vous annuel qui est deux jours en jeu le week-end du 9 et 10 octobre. Voilà, qui est un événement sur l'ensemble de la ville qui met en avant le jeu.
Voilà, juste une petite précision par rapport à ce que dit Sandra, c'est qu'effectivement dans l'île de Tech, les espaces sont plus petits, donc on ne peut pas encore faire de jeu sur place. Il faudra attendre le 9 juin parce que les jauges vont doubler. Par contre, on peut, bon, à Toussaint, déjà la grande bibliothèque, c'est possible, ou dans d'autres grandes bibliothèques comme Nelson Mandela ou la Roseraie, si la jauge n'est pas dépassée, c'est possible de lire ou travailler sur place. Donc voilà, en fonction de vos bibliothèques, vous pouvez vous renseigner auprès de vos bibliothécaires et ludothécaires préférés.
Merci beaucoup pour toute cette présentation des ludothèques. Moi, j'ai envie d'aller jouer sur place, de quitter le studio. Christophe, vous avez préparé un jeu à nous faire deviner.
Oui, parce que en tant que ludothécaire, on ne pouvait pas venir sans faire jouer les gens. Donc, on a réfléchi à des petites choses. Et là, aujourd'hui, on va essayer de vous faire deviner deux jeux. Donc, tout d'abord, le premier, on va chercher un jeu qui a été conçu à l'origine début 1900 par Elisabeth Magui, qui à la base voulait dénoncer les inégalités de revenus ainsi que les monopoles qu'elle décrivait comme, je cite, une démonstration pratique du système actuel d'accaparement des terres avec tous les résultats et conséquences habituels. On voit que déjà à la base, pour son époque, c'était plutôt déjà assez avancé. À la base, elle avait même prévu deux règles. Il y avait une avec des règles anti-monopole, dans lesquelles le monde était récompensé lorsque la richesse était créée. Bref, une vision coopérative et socialiste. Et un carnet de règles dans lequel l'objectif était de créer des monopoles et d'écraser ses adversaires. Et c'est cette deuxième version qui sera emprunté, on va dire, par Charles Darrow, qui a vendu son jeu à l'éditeur Parker dans les années 30. Donc aujourd'hui, sur ce célèbre jeu, on déplace son pion, la célèbre botte ou la voiture, ça pourra peut-être parler à certains, sur un plateau pour acheter des propriétés, y construire des maisons ou des hôtels et faire payer les autres qui ont la malchance de s'y arrêter. C'est le jeu le plus vendu au monde, dans de multiples versions et licences. On va trouver du Game of Thrones, du Mario, Dragon Ball, Reine des Neiges, mais aussi certaines villes. C'est un jeu qui n'est pas très apprécié par de nombreux ludothécaires à cause de plusieurs raisons. On a le hasard qui est très présent, les durées de partie qui sont interminables, les disputes au sein des familles qu'il y a eu beaucoup, et aussi le rapport à l'argent qui l'induit. Faut ruiner les autres et être le plus riche à la fin pour gagner. Et c'est assez loin des valeurs qu'on défend en ludothèque. Est-ce que vous avez trouvé, peut-être ? On aura les réponses en fin d'émission. Et donc, on voulait parler aussi d'un deuxième jeu. Celui-ci a été créé le 15 décembre 1979 par deux Québécois, du nom de Chris Haney et Scott Abbott. Il est tout d'abord commercialisé sous le nom de Quelques arpents de piège, donc j'ai pas l'accent québécois, donc je me risquerai pas. Et il est arrivé en France au début sous le nom de Remue-Méninge. Il a été traduit en 19 langues et vendu à plus de 100 millions d'exemplaires, et lui aussi s'est décliné sous de multiples versions. Genius, Junior, Baby Boomer, Disney, Télévision, Famille, Kids, Star Wars, et encore bien d'autres. Il s'agit d'un jeu de questions aux règles accessibles. On lance un dé, on arrive sur une case où on doit répondre correctement à une question dont le thème varie selon la couleur. Bleu, rose, jaune, marron, vert ou orange. Et le but étant de remplir en premier son camembert. Voilà.
Merci. Pascal ?
Ben, si certains auditeurs veulent téléphoner, ils peuvent tout à fait téléphoner. Et puis moi, je propose que voilà, celui qui appelle gagne, eh bien, un petit moment VIP en ludothèque pour lui faire découvrir des jeux, par exemple.
À vos téléphones. Le numéro de la radio, si vous avez envie de jouer, c'est le 02 41 60 47 47. 02 41 60 47 47. On a aussi un mail que vous pouvez trouver sur notre site via le formulaire de contact. Le temps de vous saisir de votre téléphone et de votre clavier, on va écouter un morceau. Je ne sais pas si vous avez envie de nous présenter ce choix musical qui nous vient de la bande originale de Arizona Dream.
C'est un choix d'un film fabuleux, interprété par Iggy Pop, autre personnage fabuleux. Dans ce film-là, la réalité et le virtuel se mêlent complètement. Ce sont des choses qui arrivent souvent lorsque l'on joue. Voilà, donc c'était un clin d'œil à ces mélanges de virtuel et de réalité.
On écoute In the Death Car.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Me up a little. I don't turn on the radio 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick. It felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Now come on, mandolins, play. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're
la fréquence de Radio G, le 101.5 FM à Angers. Et c'est toujours Bibliosphère qui vous accompagne, l'émission animée par le réseau des bibliothèques et ludothèques de la ville d'Angers. Ce sont d'ailleurs les ludothèques qui sont à l'honneur aujourd'hui. Et maintenant, avec Christophe, on va faire un focus sur des auteurs de jeux.
Oui, parce que comme dans la littérature, il y a certains auteurs qui sont devenus de véritables célébrités, dont chaque nouvelle sortie est attendue avec impatience par les joueurs. C'est par exemple le cas de Bruno Catala, à qui on doit par exemple King Domino et Jamaica, ou d'Antoine Boza, qui est connu pour Annabi, Seven Wonders ou aussi La Chasse aux Monstres. On parle très peu aussi des illustrateurs ou illustratrices qui, depuis quelques années, font un travail vraiment qui sublime les jeux et qui donne vraiment envie de jouer, quoi, et qui ajoute vraiment un plaisir. Aujourd'hui, on souhaitait faire un petit focus sur Wilfried et Marie Faure, qui sont un couple d'auteurs originaires de la région nantaise. Leur notoriété a vraiment explosé ces dernières années avec des titres comme La Vallée des Vikings, qui a eu le prix du jeu en Allemagne en 2019, qui est un mélange de bowling et de stratégie. Fabulia aussi, qui est une sorte de Dixit pour enfants, superbement illustré, ou encore Escargot Préparté, une course d'escargots aimantés qui se promène sur la boîte en métal. On pourrait encore en citer quelques-uns parmi les 23 jeux qu'ils ont édités à ce jour. Ces auteurs, en plus d'être extrêmement sympathiques et disponibles, incarnent parfaitement ce qu'est aujourd'hui le jeu enfant. Des règles accessibles pour des jeux où toute la famille prend plaisir à jouer. On est loin des temps où les parents rechignaient un peu à jouer aux jeux de société et prenaient ça un peu comme une corvée. Aujourd'hui, les parents s'amusent autant que les enfants sur des jeux enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
Toutes vos remarques me donnent envie de jouer. Donc, voilà. Christophe, vous avez aussi des coups de cœur de jeu.
Oui, c'est vrai que parmi toutes les, c'est difficile de choisir parmi la montagne de jeux qui sortent chaque année. En 2019, par exemple, il est sorti plus de 7000 jeux. Donc c'est difficile, même pour nous professionnels, de suivre un peu tout ce qui se fait. Tous ne se valent pas, mais globalement, la qualité est vraiment au rendez-vous, autant sur le niveau du matériel, mais aussi au niveau des mécaniques ludiques. Une des tendances actuelles, par exemple, est le jeu coopératif. Auparavant assez minoritaire, on voit aujourd'hui sortir de nombreux jeux où le but n'est plus d'écraser les autres. On apprend qu'on peut jouer ensemble contre le jeu et que l'on est plus efficace à plusieurs que tout seul. Donc, pour commencer, donc, je vais vous parler de La Maison des Souris, de Théo Rivière et d'Élodie Clément, pour deux assis curieux à partir de 5 ans et des parties de 20 minutes. Tout d'abord, le matériel donne envie de jouer, j'en parlais juste avant. La boîte de jeu, c'est en réalité la maison des souris, avec le mobilier qui est super bien fait. Et on a une petite lumière qu'on va allumer pendant 30 secondes, et on va devoir regarder à travers des petites fentes pour observer ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Donc ça va être les objets. Donc, et ensuite, on va avoir des questions qui vont nous être posées. C'est-à-dire... est-ce que le jeton bague était dans la chambre? Combien d'objets sont dans la cuisine? Et donc le jeu de mémoire est un peu revisité de façon très très efficace.
Il y a un côté un peu enquête.
On va pas être sur un jeu d'enquête, ça va être plutôt sur un jeu de mémoire un peu et d'observation quoi, surtout. Et surtout en coopération pour voir. Il y a des collègues qui ont peut-être pas vu exactement ce qui s'est passé, mais d'autres de l'autre côté ont bien vu. Donc ça va être un peu ça. Donc, un excellent jeu qui arrive. Dans les ludothèques, on l'a reçu dernièrement. Ensuite, un des meilleurs jeux pour moi sorti l'an dernier s'appelle Cosmopolite. D'ailleurs, un petit clin d'œil à l'équipe de la bibliothèque Fratellini, parce que c'est un jeu qu'on apprécie beaucoup, qui est de Julien Protière et de Florent Toscano pour 4 à 8 cuistots à partir de 10 ans. Ici, les joueurs incarnent une équipe d'un restaurant. Il y a un serveur qui prend des commandes qu'il entend via des écouteurs. Ensuite, il y a le maître d'hôtel qui va noter sur son calepin les commandes des différents clients et ensuite les annoncer aux cuisiniers qui doivent chercher parmi leurs recettes. Ça semble facile dit comme ça, mais le restaurant en fait accueille des clients du monde entier qui passent commandes dans leur langue d'origine, qui existe réellement. Quoi. Et vous connaissez le proverbe, hein, entre ce que l'on entend, ce que l'on dit, ce que l'on croit entendre et ce qu'on lit, et ben il y a plein de façons de se tromper. Donc c'est un jeu évolutif, donc on va commencer de façon assez accessible pour arriver sur des niveaux très très compliqués. Et petit détail pour finir sur ce jeu, c'est une commande du laboratoire de dynamique du langage de Lyon qui souhaitait sensibiliser à la disparition des langues et des dialectes. Et pour nous c'est complètement réussi, c'est un gros gros coup de cœur.
Et le nom du jeu ?
Cosmopolite.
Merci beaucoup.
Et je termine aussi avec donc toujours un dernier jeu coopératif, Micro Macro Crime City de Johannes Sich. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est une sorte de mélange entre un Où est Charlie et un jeu d'enquête. En fait, on va avoir une immense carte d'1,10 m sur 75 cm qui représente une ville où il y a énormément de petits détails. Et donc, on a sur chaque enquête, il y en a 16 dans la boîte, on va nous poser des questions pour dire bon, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc, il va falloir essayer de retrouver l'endroit exact sur la carte qui est assez grande pour savoir exactement ce qui s'est passé. Une chose intéressante aussi, c'est que les personnages vont être dessinés à plusieurs endroits. Ce qui fait qu'on va pouvoir suivre un peu comme si c'était une sorte de petit dessin animé, on va pouvoir suivre la journée du personnage et voir ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après. Et ce jeu a d'ailleurs gagné l'As d'Or à Cannes, donc c'est le prix qui récompense le meilleur jeu de l'année en France. Donc j'aurais pu encore en citer beaucoup, beaucoup, mais j'aime beaucoup ça, mais je vais m'arrêter là.
C'est déjà une belle sélection, on mettra les infos en ligne.
Les gens viendront te solliciter en ludothèque pour avoir d'autres titres à proposer ou iront solliciter les collègues des autres ludothèques. On est là pour ça.
Et maintenant, on va plonger dans un livre jeunesse qui nous parle de jeux. Le titre, c'est « À quoi tu joues ?» C'est bien ça. Et là, c'est vous, Sylvie et Sandra. Je vous laisse nous expliquer peut-être pourquoi vous en parlez ou simplement nous le lire.
Eh bien, À quoi tu joues, c'est un livre qui est écrit par Marie-Sabine Roger et Anne Sol. Il est édité par Sarbacane avec le soutien d'Amnesty International en multiples éditions. La première date de 2009. Voilà, c'est le livre incontournable des ludothèques et des ludothécaires. Vous allez comprendre pourquoi.
Les garçons, ça fait pas de la danse. Ça serait trop ridicule.
Ah oui, et Patrick Dupont et Ousmane Sy, ils étaient ridicules peut-être ?
Les garçons, ça joue pas à la dinette. La dinette, c'est nul.
Bah, pourquoi ? Parce que les garçons ne font pas la cuisine ? Et les grands chefs cuistots, ils sont nuls aussi ?
Les garçons, ça joue pas à la poupée. La honte.
Ah oui, du coup, les super papas t'ont fait quoi ? Ils ont l'air plutôt heureux quand ils poussent une poussette ou qu'ils portent leurs enfants sur leurs épaules.
Les garçons, ça saute pas à la corde. Forcément, c'est des garçons.
Ouais, ben t'as qu'à dire ça à Mike Tyson ou Bernard Hopkins et on en reparle. J'espère que tu cours vite, hein.
Et les garçons, ça pleure jamais. Ben non, on manquerait plus que ça.
T'as jamais vu Ronaldo, Maradona, Neymar, Griezmann, Noah, Riner et Tsonga pleurer ? Moi, si. Je trouve ça beau.
Les filles, ça joue pas au foot. Faudrait déjà savoir taper dans un ballon.
Amandine Henry, Jessica Waradomo, Martha, Obsolo, ça te dit quelque chose ? Faudrait déjà que tu suives un peu, hein.
Les filles, ça joue pas aux voitures. Forcément, c'est des filles.
Et forcément, tu connais pas Michel Mouton, Danica Patrick, Maya Heug, Suzy Wolf. Non, hein.
Les filles, c'est pas bricoleur. Parce que ça sait rien faire.
Ah ouais. Grutière, bûcheronne, chauffeuse, mécanicienne, menuisière, plombière. Ces mots ne sont pas dans le dictionnaire, peut-être.
Les filles, ça peut pas piloter des avions. Ça risque pas. Pourquoi pas des fusées tant qu'il y est ?
Tu es au courant que la première femme dans l'espace, ça date de 1963. Elle s'appelait Valentina Terechkova. Et puis ont suivi Sally Ride, Claudie Aigneret. En ce moment même, Meghan MacArthur est sur SpaceX. Et mets-toi à la page, hein.
Et surtout, les filles, ça fait pas la guerre. Et puis quoi encore ?
Mais réveille-toi. Les femmes du YPG au Rojava se battent depuis 2013. Et les Lucie Aubrac, Elsa Triolet, Germaine Tillon. Ne les oublions pas, hein. Alors ?
Oui, tu as raison. Le monde sans les filles, ça tournerait beaucoup moins rond.
Ah oui, tu as raison. Le monde sans les garçons, ça tournerait beaucoup moins rond.
Et à la ludothèque, il y a des jeux pour les filles et des jeux pour les garçons ?
Mais non ! À la ludothèque, il y a des jeux pour tout le monde.
On va vous laisser fermer, patron, hein.
Pensez, vous me dérangez pas !
Non mais quand même, on va prendre du souci.
Si vous voulez qu'on se fasse un petit cul de chouette ?
C'est pas une mauvaise idée, ça.
De quoi ?
Je sais pas, enfin, c'est si vous avez le temps, hein.
Mais le temps de quoi ?
On se fait un petit cul de chouette vite fait, puis on rentre.
Un petit cul de chouette, mais comment vous voulez dire ?
Allez, ça nous détendra. Hop là ! À vous de faire.
C'est parti ! Ah, je commence pas fort. Un bleu-rouge.
Un bleu-rouge ?
Bah quoi ?
Mais c'est quoi que vous faites, là ?
Mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous.
De quoi ?
Chouette.
Ouais, c'est plus possible, c'est pas de la chance, là.
Avec celle-ci, plus les deux tout à l'heure, je monte à 44. Qu'est-ce qu'il fait, il relance de 15 ?
De quoi ?
Ah, c'est pas votre intérêt, hein. Vous êtes en dessous de plus de 30, autant tirer les dés à la normale.
Ah non, l'influencez pas.
S'il vous plaît, vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, on joue pas au score, il a pas l'habitude.
Bon, allez, à vous de faire.
Eh ben ?
Ben quoi ?
Eh, vous dites pas cul de chouette ?
Cul de chouette ?
Ah.
Bon, bah cul de chouette.
Hein ? Attendez-vous doubler ?
De quoi ?
Attention, je vous préviens, là, hein, avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas, vous êtes viré du jeu.
Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué.
C'est vous le patron, hein.
C'était risqué.
Marqué, c'était beau de le tenter. Hein.
Bon, bah du coup, vous sortez du jeu.
Eh oui, c'est dommage, c'est la règle.
Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien.
Bon, eh ben on va se rentrer.
C'est bien une petite partie de temps en temps.
Ouais. Et si on se faisait une grelottine?
Une quoi?
Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles.
Je connais pas.
C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée, comme on appelle, c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit, passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Mettons le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, il vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur sa haricot en criant, gros lot, ça picote! Et il tente la relance jusqu'au tour d'après.
Ouais. Enfin, le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots.
Ah, merde.
On a écouté un extrait d'un sketch de Kaamelott d'Alexandre Astier avec des règles qu'on a comprises ou non. À voir.
Ouais, alors effectivement, les règles, c'est souvent le point d'achoppement pour passer l'univers d'un jeu. Alors, eh ben, écoutez, un petit clin d'œil à ce qui se passe en ludothèque. Les ludothécaires sont là pour vous conseiller en fonction de ce que vous aimez, retrouver des valeurs sûres, mais aussi découvrir des nouveautés. Vous expliquer un petit peu les règles pour que ce soit plus facile de jouer à la maison ensuite. Voilà, et puis si cela ne suffit pas, on voulait aussi indiquer une astuce qui est assez efficace pour s'approprier les règles d'un jeu. Ce sont les vidéo-règles qu'on trouve désormais sur Internet. Vous tapez le titre d'un jeu, vidéo-règles derrière, et vous avez plusieurs présentations. C'est souvent bien plus efficace que la lecture fastidieuse de fascicules qui peuvent être très longs, écrits en tout petit et qui ne sont pas forcément compréhensibles. Cible de tous. Et là, on peut tous se mettre devant cette vidéo règle et s'approprier les règles tous ensemble au même moment. Donc voilà, une bonne petite astuce pour ne plus craindre de faire un jeu de société que l'on n'a jamais testé.
Éviter les quiproquos et les tensions.
Tout à fait.
Et pour finir, on va avoir la réponse au quiz des jeux décrit tout à l'heure par Christophe.
Suspense, suspense.
Suspense, et oui, nous cherchons depuis tout à l'heure.
Est-ce que vous aviez trouvé peut-être?
Moi, j'ai des propositions, oui.
Ah bien, je vous écoute.
Monopoly.
Oui, le premier, c'était bien le Monopoly. Donc, aujourd'hui, en ludothèque, ça rassure beaucoup les gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour chercher des jeux classiques qui sont connus par beaucoup de monde. Notre rôle, nous, ça va être de proposer un peu des jeux modernes, tout en étant accessibles, mais avec des mécaniques un peu plus intéressantes. Par exemple, on a quelques jeux qui pourraient s'en rapprocher. On peut parler de Marrakech, par exemple, qui est un petit jeu où on va devoir poser des tapis et éviter justement d'atterrir sur les tapis adverses, sinon on va devoir les payer. Miniville, qui est un petit jeu de construction de ville où il va y avoir de la circulation d'argent. Catan aussi, qui est très célèbre dans le monde du jeu moderne, Papy Winchester ou encore Las Vegas. Et pour le deuxième jeu, vous aviez trouvé peut-être? Parce que nous, on les connaît.
On joue pas à Nice, c'est pas
nous. D'accord, alors le Trivial Pursuit, c'est le camembert qui me
rappelle. Ouais, voilà, gros indice. Effectivement, c'était le Trivial Pursuit. Le succès du jeu n'est plus à démontrer. Son seul défaut, c'était peut-être le caractère un peu élitiste de certaines questions, ce qui fait qu'on se sentait un peu bête quand on ne connaissait pas la réponse. Il a inspiré beaucoup de jeux de questions que personnellement je préfère. On peut citer par exemple le TTMC. Tu te mets combien, ou un jeu où on doit estimer ses connaissances, le niveau de ses connaissances de 1 à 10. On aura une question plus ou moins difficile, avec des thèmes souvent loufoques. On peut citer le Burger Quiz, un jeu de société qui est inspiré du célèbre jeu télé créé par Alain Chabat. On va pouvoir citer aussi Timeline, où c'est un jeu où on doit classer des événements par ordre chronologique. On a aussi l'éditeur BioViva qui va faire des questions sur le thème de la nature souvent. Et Stay Cool aussi, qui est un jeu un peu déstabilisant parce qu'on va devoir répondre à deux questions en même temps. Une à l'oral et l'autre en tripatouillant des dés pour trouver des lettres pour écrire la réponse. Donc c'est les petits jeux de questions qu'on aime bien à la ludothèque.
Ouais, celui-là a l'air d'être niveau cosmonaute pour s'entraîner.
Ouais, c'est pas forcément évident, mais bon. Ça c'est drôle.
Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc tous ces jeux sont dans les ludothèques angevines. Un grand merci de nous avoir donné envie de jouer. Bibliosphère se termine. On espère que cette émission vous a plu, réjoui, amusé. Vous pouvez la réécouter en intégralité sur le podcast, sur le site de Radio G. Et il y aura également toutes les références des jeux cités, tout pour vous donner envie d'aller aux ludothèques et de jouer en général. Merci beaucoup Sylvie, Sandra, Christophe et Pascal. Et le prochain rendez-vous Bibliosphère, c'est mercredi 16 juin à 17h bien sûr. D'ici là, toutes les médiathèques et bibliothèques sont ouvertes bien sûr.
On vous attend.
À bientôt.
Radio-g.fr